On a compris un truc, c'est qu'en Corse, on peut pas suivre le programme. Donc, normalement, il y avait une table ronde avec des intervenants. Alors, il y en a la moitié qui sont toujours à la vie en train de balancer. Ils vont venir après, tu vas leur faire un truc génération. En fait,
oui, oui.
Et du coup, Mathieu, donc tu remplaces Arnaud. Toi, tu as un texte à lire. Et Manu et Laurent vont s'occuper de tout.
Voilà, donc je veux excuser Doumé Thomas, donc qui n'est malheureusement est malade, et qui ne peut pas être là, et Philippe Ferrer, son comparse, qui ont été à l'origine quand même je dirais, si on parlait de cette, on va dire, deuxième génération, je pense que c'est ça, 90, à partir de 90. Donc il y a deux événements qui sont intéressants, à Ajaccio notamment, et Serge en a fait partie, c'est parce que la municipalité de droite et notamment une élue à la culture qui s'appelle Fétia Ramarone, qui est une grande bourgeoise en Montfurie et en collier à perles.
Qui était quand même accessoirement la sœur de Marcel Franchic, un des derniers grands parrains, Mathieu Corse, voilà. Que le Time Magazine a publié sa photo, ça c'est monsieur l'héroïne.
Et donc elle décide, elle est élue à la culture, elle décide d'ouvrir un lieu qui se trouve route du Vitoul, qui s'appelle La Poudrière, dont Serge a été...
Mais il faut rappeler aussi pourquoi le lieu a été créé.
Oui, oui.
Le Scoud a été occupé en 86 par un collectif d'artistes musiciens dont faisait partie Tapage et plein d'autres groupes locaux. Il n'y avait pas que, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'autres artistes aussi. Et on a occupé le Scoud parce qu'à l'époque, le théâtre Calixte était muré. Et on demandait à la mairie des locaux. Et on avait ces locaux là-bas, au Sainte-Mère, qui devaient être les locaux de la télé, qui avaient été pacifiés par François, par le FNC. Et donc, on a dit, bon, on a occupé pendant un an. Et c'est là que la mairie a balancé la poudrière, grâce à Félicia, quand même.
Grâce à Félicia.
Voilà. Et donc, je suis devenu le manager gérant.
C'est ça. Pendant, donc, il a officié pendant quelques années. Et donc, Diversité Tapage Nocturne, donc un groupe qui s'est formé donc, autour de Doumé Thomas et donc de Philippe Ferrer, et qui a très très vite été très productif, donc qui vraiment démarre et commence à être exposé au niveau au début des années 90 et qui va durer quasiment jusqu'à 96-97.
Et d'ailleurs, avec un petit côté, alors rien à voir avec le rien noir, mais ils avaient le sax, ils avaient des chapeaux de forme, ils avaient une espèce de look un peu comme ça, c'était un peu le côté potache un peu quand même aussi.
Complètement. Et très vite, eux, ils sont remarqués. Ils organisent un concert aux Salines qui réunit quand même 4000 personnes, ce qui était complètement dingue pour l'époque. Hein, donc, vraiment, c'est... oui, voilà, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, Mathieu, tu confirmes. Hein, c'est ça, beau. donc, ils ont une première signature avec une maison de disques nationale, donc à ce moment-là. Pour un groupe de rock en Corse, c'est la première. Quoi. On n'avait jamais vu ça avant. Et donc, ils font le Printemps de Bourges. Donc, ils font le Printemps de Bourges. Et là, ça commence à monter vraiment, vraiment en puissance, tourner sur le continent. Ils font un CD, un premier CD. Alors, eux ne chantent pas en Corse, hein, ils chantent en français, parfois en anglais, mais surtout en français. Et en fait, ils organisent notamment pas mal de soirées à l'Agde, parce que là aussi, l'Agde, où ce soir, il va y avoir le concert des Pansettes, Paradise, ouais, les Yen. Ils sont là, les petits jeunes. L'Agde, c'est une salle qui ouvre en 86, je crois.
Qui est donc une grange qui est transformée par une association de mélomanes, de jazzmen, et voilà, ça part comme ça, et ça devient donc la salle qu'on connaît aujourd'hui.
La salle qu'on connaît aujourd'hui, qui est en fait une sorte de... Enfin, qui est affiliée dans le réseau SMAC, sans renaître une vraiment, mais ça c'est toujours notre spécificité à nous. Donc voilà, et ils ont vendu quand même 5000 albums, Tapage Nocturne. Donc ils ont quand même très très bien marché. Le groupe a splitté, parce qu'ils n'étaient pas que deux, il n'y avait pas que Doumé et Philippe, ils étaient plusieurs au départ, le groupe le split, et donne naissance à un autre groupe qui s'appelle QI.
QI. De Philippe Ferrer.
Philippe Ferrer et Doumé Thomas, QI ou QI en Corse, qui commence lui aussi à marcher un petit peu bien. Pareil, ils refont le Printemps de Bourges, etc. Là, ils sont approchés par Virgin pour signer, et ça capote. Mais ça capote aussi pour un peu les mêmes raisons qu'a expliqué Pierre. C'est-à-dire que les attentes de la maison de disques étaient telles qu'eux-mêmes, ils ont flippé. Et eux-mêmes, ils ont presque fait en sorte que ça capote. Quoi. Pour dire, voilà, ça aussi, ça fait partie, je pense, des spécificités.
Alors, vite fait, c'est vrai que Tapage Nocturne et qui, après, c'est des gens, des groupes qui ont étaient hyper productifs. Ils ont joué, ils ont monté des concerts, ils ont enregistré des disques, ils étaient quand même le groupe phare de l'époque. Quoi.
Complètement. Donc voilà, donc après, évidemment, malheureusement, qui sort, je me rappelle, c'est en 2005 d'ailleurs, parce que moi à l'époque, j'avais beaucoup suivi, il y avait eu un interception de France Inter qui avait été consacrée à leur travail, on les avait suivis dans leur studio, etc. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir pu signer dans une grande maison de disques, de continuer à tourner ici, ça les a un petit peu épuisés. Ça s'est terminé comme ça, malgré un premier titre, un clip qui a plutôt pas mal marché, on va dire. Mais après, ça les a vraiment épuisés. Et puis chacun est allé à sa vie. Hein. Doumé est prof d'anglais, mais continue à être musicien, puisqu'il a deux formations, dont une qui vient Whissy Hawks, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps.
Grand Duke avant.
Grand Duke avant. Et Philippe, lui, a complètement, fait de la musique uniquement pour son plaisir, mais a complètement arrêté, de se produire en tant que musicien professionnel.
Et voilà, et donc du coup, on est dans les années 90, début 2000, et là, on passe donc à une époque plus récente. C'est pour ça que Mathieu est venu aujourd'hui pour nous parler, lui qui est musicien, qui a participé à plusieurs aventures musicales avec son comparse Arnaud Castel. Et on avait donc le premier groupe, c'était Acid Child.
Voilà, Acid Child, Nerf. Et les Conquistadors.
Oui, parce que bon, il faut savoir que ces deux Gugus, là, lui et Arnaud, qui n'est pas là malheureusement, les mecs ils changent de nom de groupe comme ils changent de caleçon de bata, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait 50 groupes, 3 labels, ils sont assez.
L'électro aussi.
De l'électro, du rock, oui, très important de le dire aussi, parce qu'il y a effectivement depuis les années 2000 cette dérive sur le son électro qui arrive.
Un comparse, moi qui avait besoin d'un rocker.
Alors moi j'aimerais que tu racontes comment vous avez monté le groupe. Le premier, c'est quand vous avez vraiment commencé, quoi. Raconte le contexte, comment vous êtes retrouvés tous deux à faire ça.
C'est le groupe, un peu par Saki d'ailleurs, qui nous a laissé leur salle de répète, tout ça. C'est avec Arnaud, on avait ce besoin commun de composer, de faire de la musique, tout ça.
C'était il y a combien de temps, ça?
C'était il y a 15 ans.
Hein. Tu es toujours jeune, mais tu étais très très jeune. Donc. Ouais.
Et donc ça a démarré comme ça, il n'y avait pas grand monde qui faisait du rock, là ça s'était vraiment terminé. Moi j'ai eu la chance d'après d'être dans une époque, 2-3 ans après, l'arrivée des Strokes et
de Westrack. A remis le rock un peu
sur les rails.
Et le son alors, décris un peu le son quand vous commencez avec Arnaud, ça sonne comment alors?
Nous c'était plus, c'était pas punk au début, c'était plus Led Zeppelin, tous ces trucs-là un peu lourds, tout ça.
Très 70 donc.
Ouais, très 70. Moi j'étais beaucoup plus punk que lui. Et bon, là, le punk à cette époque, c'était fini, ouais. C'était vraiment fini. Et après, je partis un peu sur l'électro, et là, c'était plus punk, du coup. Même si c'est de l'électro, le punk, tout ça, c'est dans l'énergie, dans le do it yourself aussi. Donc là, c'était complètement punk, quoi.
Ça fait penser à ce groupe, le duo Sleep for Mods.
C'était un peu ça.
Où le chanteur, c'est le chanteur punk.
Oui, il a du punk.
Et son mec qui fait la musique, il a son ordi, il envoie des beats.
Des beats comme ça.
Donc c'est une énergie punk, en ayant un laptop, et juste un chanteur.
Exactement.
Donc peu de moyens et quand même suffisamment pour foutre le bordel. Et ensuite, donc ça, ce premier groupe, il s'appelle comment?
Conquistadors.
Bon, Conquistadors, alors là, je t'explique.
On n'essaie pas de se cacher dans
le... Non, mais là, au niveau sémantique, on pourrait ouvrir un débat sémantique sur le nom des groupes, parce qu'il y a quand même il y a des choses incroyables. Et donc, juste après Conquistadors, vous montez quel groupe?
A Younger Shot de mon côté, là, avec ses mots.
Avec ses mots, là c'est plus, là tu es dans l'électro total.
Là c'était dans l'électro pas total, parce qu'il y avait quand même cette énergie rock. Ouais. Donc ses mots avaient besoin que j'apportais.
Mais toi tu jouais de la batterie donc?
Non, là j'étais au chant.
Mais avec Arnaud au début tu jouais de la batterie,
ouais, de la batterie.
Et quand tu passes à Younger Shot, tu fais que de l'électro, quoi.
Voilà, les machines et chant. Et c'est là où je me mets à chanter, je chantais pas du tout, ouais. Au début. Et je me mets à chanter, et après on est parti avec Arnaud, nos premiers amours sur le rock avec Flair.
Là, donc ça, Flair, c'est le projet d'après, donc.
C'est ça. Plus punk, plus punk et Britpop aussi. Et
parce que là, on est en pleine période, comme tu dis, Libertines, Ives, les Strokes, Oasis.
Oasis, tout ça.
D'ailleurs, ça ne sent pas du tout l'influence d'Oasis chez toi quand tu chantes, ta posture physique et ta voix, parce qu'on se dit, mais merde, c'est notre Yamano, quoi.
Et du coup, voilà, ça en a fait, on s'est fait quand même une petite tournée en Angleterre, ça, pour jouer, parce qu'après, ici, comme l'a dit Pierre, une fois que tu as fait les trois festivals,
c'est fini,
les quatre salles, c'est fini. Ouais. Et c'est plus facile de jouer en Angleterre qu'en
France. Ah bon, ça c'est que le début parce qu'il y a eu un autre groupe encore après. Acid Child vient après.
Acid Child, mais moi je ne fais pas partie de ce groupe, ça c'est Arnaud.
Ouais.
Et Acid Child, eux se sont exportés à Manchester justement.
Là il n'y a que des musiciens donc ça se joue live, pas de machine.
Ouais, par ces mots, mais synthé et machine, plus dans mes arrangements.
Et après Acid Child, tu continues toi à bosser avec Arnaud.
Et là, on a monté un projet, mais ça, c'est vraiment à part avec Armabel Oder, qui est une figure du Veracruz, effectivement. Qui joue d'Ache
et Terra. Figure, oui, qui est une figure musicien important aussi.
Qui joue d'Ache et Terra, qui est un instrument, comme un luth,
ouais.
Mais qui en joue comme un punk.
Oui, parce que c'est un peu comme Hakim, le mec qui joue du oud avec Rajita, il branche avec la distorsion.
C'est une de ses influences d'ailleurs.
Et le projet s'appelle La Tribière. Je vous invite à aller regarder sur le net parce que musicalement c'est très intéressant. Ça mélange le rock, l'électro et le trad, mais de façon tellement naturelle et tellement musicale qu'on sent pas, il n'y a pas de formule magique.
Quoi. C'était la peur qu'on ait, parce que j'aime pas la fusion forcée, et du coup ça se fait très naturellement. Et on est assez fiers de ça. Ouais.
Entre plusieurs générations, parce que Karma, c'est une autre génération, donc c'est un mélange de générations, quoi.
Je voudrais juste m'arrêter 30 secondes sur ce que tu viens de dire juste avant. Effectivement, il joue d'un instrument traditionnel corse comme un punk. Est-ce que tu pourrais essayer de poser un peu plus de mots pour essayer de décrire c'est quoi une manière de jouer d'un instrument à la manière d'un punk?
C'est de manière le plus simple et direct possible. Qui prend là, alors que c'est un instrument, si j'en joue moi, on dirait qu'on est dans les visiteurs, tu vois.
Ouais. C'est médiéval, avec toi ça redeviendrait médiéval.
Et lui, il en joue, hein. Il a pris une guitare acoustique, et il fait même pas plus pop que punk. C'est tellement direct, simple.
Et le son, je pense qu'il y a le son aussi, parce qu'il fait un son brut. Etc. Si tu en joues, je veux dire, tu reviens au moyen avec toi. Il le branche dans un ampli, dans une disco, il a un son terrible. Même dans la façon qu'il a d'en
jouer. Les accords, les sud-accords qu'il utilise.
Parce que Karma a beaucoup écouté Led Zeppelin, et même quand il faisait Manat, son groupe d'avant, musicalement, lui qui a créé un groupe important dans la réalité qui s'appelle Chinquizor, il a fait Manat pour ouvrir le son musical, parce que lui c'est un fan de pop, de rock, pour ouvrir son groupe aux sonorités méditerranéennes, il allait même vers l'Inde avec la sitar. Et en fait, il a une approche, dans certains morceaux de Mana, qui restait quand même très méditerranéen comme musique. Donc, il faisait des intros à la Cachemire. Il arrivait toujours à placer un truc un peu lezébien. Et il est incroyable pour ça, parce qu'il a une culture rock, alors qu'il a toujours défendu le violon, la tchèque, la culture corse. Vu ce cher Karma, il a mis des bombinettes pour le FLN, il s'est impliqué à mort. Donc, et en même temps, il vient du rock. Il a commencé sa carrière musicale en écoutant des groupes purement des années 70, quoi. Voilà.
Merci. Et du coup, pour la plus jeune génération, alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est quoi votre groupe? Qu'est-ce que vous faites comme style de musique? Et puis même comment vous êtes rencontrés, voilà, tout ça. Vous pouvez vous présenter. Et vos prénoms d'abord aussi, si possible.
Alors, moi, c'est Théo.
Moi, c'est Alex.
Et moi, c'est Laurent.
Et votre âge, s'il vous plaît?
On a 21 ans.
Moi je suis un petit bébé, j'ai 19 ans.
Bébé.
Vous êtes donc les 37
à Paradise. On est les 37 à Paradise. Voilà, c'est nous. Et en fait, du garage rock.
D'ailleurs, quand je vois le look, c'est pour ça, lui s'appelle le Lexify.
Ça va, le Lexify.
Tu aurais pu être la Panthère.
Je pense qu'il y a juste un petit détail qui aurait fait que j'aurais peut-être pas pu être Black Panther. Mais sinon, la coupe à la limite, peut-être. Ouais, non, je ne me serais pas aventuré dans ça, je pense. Et du coup, ouais, on est 37 à Paradise, on fait du garage rock réacquistade pour décrire, je sais pas qui nous avait décrit comme ça, c'était Tank, je crois. Et j'avais beaucoup aimé ce truc, cette formule. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. On chante en langue corse, on compose,
voilà. Le chanter en langue corse, ça a toujours été le cas, c'est venu plus tard, vous chantez en anglais, en français, vous chantez exclusivement en langue corse, c'est quoi ce choix?
On a quelques compos en français, on chante pas en anglais parce qu'on est des quiches en anglais.
Non, c'est juste la question de la langue corse, parce que on a toujours baigné dans une culture, comment dire, on a toujours écouté les vieux disques des Tiamadialés et de Kant, et on a toujours on a attaqué plus ou moins la musique en chantant corse, et en voulant continuer dans ce chemin-là du rock, on voulait continuer à chanter en corse.
Ouais, voilà. On s'est dit pourquoi pas, je veux dire, pourquoi on changerait la langue dans laquelle on
chante. Non, j'ai une question, vous parlez corse.
Oui.
Et donc du coup, vous avez appris quand, le corse, vos parents, vous avez appris
la langue? À la maison et à l'école.
D'accord, donc pour vous c'était naturel de chanter en corse?
Oui.
Vous n'avez pas posé la question?
Bah alors après, vous avez posé la question. Si, quand même, C'est vrai, un petit peu quand même, la question elle s'est posée.
Mais on avait peur que ça marche. Enfin, moi j'avais peur que ça marche pas très bien. Et en fait, ça
fonctionne aussi. Ça fonctionne, il fallait prendre le pari de se dire on fait quand même, on fait du rock, on fait encore.
Alors, surtout que le rock, c'est chanteur anglais, non français. Beaucoup de gens, même de ma période à moi, de musiciens, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait faire rocker la Corse, en fait. Et dès que les groupes ont commencé à s'y attaquer, il y avait plusieurs, la Vert, Santé, Réafical, les Alibot, encore. Et en fait, même vous, c'est rock, quoi. C'est, sinon, les latines, mais elle a quand même un impact avec la musique rock, elle a quand même un impact, quoi. Ça, c'est incroyable.
Bah, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Mais nous, en fait, notre démarche, comment dire, on n'a pas envie que la langue soit une barrière. Et si on a envie, je parle de manière globale, je veux dire nous en Corse, nous du Corse, que la langue corse elle soit reconnue comme une langue à part entière, selon moi il faut l'utiliser comme une langue à part entière. Exactement. Et pas la voir comme du folklore que tu peux chanter qu'au comptoir.
Exactement.
Donc du coup, pourquoi ne pas faire du rock, pourquoi ne pas faire du rap,
de l'électro. Et au-delà, c'est que tu voulais vous redonner la langue, une espèce de fraîcheur, de modernité, ça régénère, tout ça, c'est bien, ça réduit.
Merci. Merci. Alors, merci.
Comme je ne suis pas un autochtone, vous avez cité quelques groupes avant, mais est-ce que c'est plutôt de la musique traditionnelle? Est-ce que vous avez des influences aussi, ou au moins des connaissances d'anciens groupes qui auraient joué du rock, pas forcément en Corse, mais
Ah oui, bien sûr. Bon, déjà, en termes de rock corse, pour moi, ils sont incontournables. Je suis un gros fan, d'ailleurs, c'est Yanté, le groupe de Pierre Gambine.
C'est super. C'est la base.
C'est la vie, hein.
Non. Il y était
non, non, raté
non.
Oh non,
je suis dé.
Oh non.
D'ailleurs, on a repris une de ses chansons. Voilà, il dit ouais, ben on était. C'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs. Il a dit ah, ils arrivent. Enfin, en tout cas, voilà, ouais, Iganté, moi c'est une grosse référence quand même pour Laurent.
Ah oui, complètement. C'est lui qui m'a fait découvrir Iganté parce que moi j'étais plutôt resté dans le registre. Voilà, traditionnel, réacquiste, et même ce qui se fait avec Messager et un peu plus moderne.
Ce qui se fait aussi avec ton
autre
groupe.
Et voilà, et La Vinta, je fais partie d'un autre groupe, La Vinta, où nous on est plutôt, on reste dans le ce qui peut s'appeler le traditionnel, et j'ai trouvé ça intéressant avec Pancette Paradise de visiter un peu ce.
De faire chanter la langue corse différemment.
Exactement.
C'est qui le responsable du nom du groupe?
L'alcool.
C'est la réponse appropriée, je suppose. Il y a un message ou pas du tout? Ou c'est juste l'alcool, justement, hein, c'est ça?
Non, c'est la rigolade et c'est les copains, surtout.
Ah, ouais. Ça roule. Est-ce que c'est difficile en 2023 d'avoir 18-20 ans et jouer du rock ici en Corse? Je parle, je ne sais pas, trouver des concerts, trouver... se faire entendre, être accueilli, ce genre de choses.
Je prends mon micro, sinon on ne comprend pas. Ça peut paraître difficile au début, mais en fait, ça va. Je me rends compte que plus ça avance, et plus on arrive à trouver des petits festoches, des trucs comme ça, des endroits où jouer.
Oui, on essaie de se donner les moyens de se produire. On contacte des mairies, des trucs, on essaie de faire des concerts, et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils n'étaient pas forcément...
Oui, ils sont pas assez
voilà.
Voilà,
c'est ça. Que c'est ce qu'on se disait au début. Ils ne fondent pas quand ils voient une guitare électrique, donc ça va. Et les gens sont même plutôt contents et surpris de ce qu'on peut se proposer, et on est toujours contents de la réaction des gens.
Je te refile le micro juste après. Et c'est une question qui te concerne aussi, est-ce que c'est facile finalement de diffuser sa musique? Est-ce que vous avez envisagé, moi je suis un néophyte là, parce que je débarque, mais est-ce que vous avez déjà envisagé, ou vous l'avez fait, produire un disque? Est-ce que vous envisagez de contacter des labels? Et puis pour toi, effectivement, est-ce que tu as monté ton propre label, ou tu es passé par quoi?
Nous, on avait monté notre propre label, qu'on a pu depuis. Après, diffuser sa musique aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, avec les plateformes, tout ça. Mais oui, et puis même monter son label, c'est plus simple qu'avant. Après, est-ce que ça donne une audience plus forte, quoi, je sais pas. Nous, on chantait en anglais, on chante en anglais. Donc, trouver des dates, des fois, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce truc avec la langue corse. Mais c'était un choix aussi pour avoir la diffusion la plus large de la musique. On ne peut pas non plus se cantonner à la Corse, même si on chante en Corse, on peut s'exporter. Mais diffuser sa musique, oui, c'est plus facile. plus facile qu'avant.
Je suis d'accord, c'est plus facile qu'avant, je présume. Enfin, moi, je n'ai pas connu avant, mais je peux imaginer. Nous, on a tout fait, on a fait notre single, donc c'est un deux titres, avec du coup le cover de Identity, donc Houdini, et une compo qui est une seule. D'ailleurs, on va ouvrir le set par celle-là ce soir. C'était super simple. Enfin, ça a coûté des sous, mais je veux dire, c'était simple dans la diffusion, on va dire, quand on a pris avec Musician, on s'est pris qu'à l'appli sur le téléphone et on l'a mis comme ça. Quoi.
Oui, voilà. Mais après, bien sûr, pour que les gens l'écoutent, c'est un peu plus compliqué en fait, parce que voilà, on doit faire la promo nous. Enfin, quand on est en autoproduction comme ce qu'on a fait pour notre petit single, le sortir c'est facile. Après, que les gens l'écoutent, c'est autre chose.
Vous êtes passé par effectivement des plateformes de streaming, tout ça directement avec le single ou
Oui, on a sorti sur les plateformes et on a fait beaucoup de communication par les réseaux sociaux. Et en fait, c'était le moyen d'exister, de sortir quelque chose pour exister et proposer des concerts et puis un peu notre univers. Et voilà, c'était un objectif qu'on voulait atteindre pour se lancer vraiment. Et maintenant qu'on l'a fait, c'est très encourageant pour continuer, quoi.
Est-ce qu'il y a des envies un petit peu d'aller voir ailleurs, de potentiellement commencer à trouver des dates sur le continent, des envies de tourner, peut-être ?
Non, nous on restera toujours sur la Corse. Non, bien sûr,
là on a pas mal tourné cet été. Alors, pas mal, 3 concerts, pas mal. Pour nous, c'est pas mal. Du coup, on a tourné un peu cet été, et là, il y a projet de donc l'été prochain, le faire encore plus. Et cet hiver, on va essayer de trouver quelques petites dates un peu partout, peut-être oui, sur le continent, moins sur la Côte d'Azur, peut-être sur Paris, parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs, enfin d'endroits qui seraient propices. Ouais.
On a discuté avec les gars de No Futal, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, on était à Corte avant-hier, du coup, et qui nous disait qu'effectivement, l'aspect régional était quand même... pouvait créer des ponts sur le continent, notamment avec les Basques, qu'il y avait une forme de connivence et des dates à trouver assez facilement, que les Corses étaient vachement bien accueillis. Alors peut-être que ça serait aussi un endroit où essayer de chercher des dates, quoi.
On va essayer. Hein, pour l'instant, en fait, notre objectif, ça sera de tourner en Corse, de faire quelques dates pour déjà avoir de l'expérience en concert, tout ça, et après de rechercher des dates sur le continent comme tu as proposé d'aller voir du côté du Pays Basque.
Et toi, t'as pas entendu du coup, alors tu fais quoi dans ce groupe là, dis-moi?
Alors moi je suis batteur du coup.
C'est pour ça qu'on t'entend pas du coup.
C'est ça. Moi je suis pas que boum boum. Et ouais, je suis la dernière recrue du groupe du coup. Je suis rentré quand? Mars. Par là, ouais. Ouais, c'est ça.
Il y avait un autre batteur avant ou...
On est un tout jeune groupe, on vient vraiment, ça fait même pas un an qu'on commence à se produire, et en fait avant on n'avait pas vraiment on a eu une première formation avec quelques amis qui n'a pas fonctionné, quoi, qui n'a pas continué, et les singles qu'on a enregistrés, on a fait appel à des amis batteurs avant de trouver le vrai, le bon.
Ouais, et du coup on s'est rencontrés parce que nous on est tous les trois sur Nice pour les études, et on s'est rencontrés du coup au conservatoire là-bas, et c'est plutôt bien parti, je trouve.
Mais vous faites le même type d'études ou...
Ouais, c'est ça.
Ça marche. Et ça vous a trotté ou pas du tout une carrière genre intermittent, ce genre de choses? Et d'ailleurs, est-ce que toi tu vis de la musique aussi? Pas du tout.
Je visais pas l'intermittence. Si ça marche, ça marche. Si naturel qu'à la belle, tout ça, ok. Non, après, viser l'intermittence, non, c'est pas le but. All or nothing. Mais nous, je pense quand même que ça reste le but ultime d'en vivre. Ce serait le top. Et on essaye de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour
pour y arriver. C'est que le début.
Juste une question, c'est quoi l'idée? Pourquoi vous avez voulu reprendre à One and Your Dog? Comment c'est venu?
Ah, on aime bien.
Encore,
en fait, on s'est fait un délire avec Laurent, on aime bien traduire des chansons en Corse, ou prendre des morceaux genre des câbles et les faire en rock, ça nous fait rire. Mais il n'y a vraiment pas de message profond à chercher, ça fait juste marrer. Oui, c'est cool. Bon, le réacquiste, c'est quand même punk un peu.
Ouais, oui. C'était la même période.
Voilà.
Je vais juste reposer une question que j'ai déjà posée, mais c'est valable aussi pour toi. Je la pose à tout le monde, c'est un peu mon dada, parce que je travaille un peu sur les générations. Est-ce qu'il y a des solidarités avec d'autres groupes? Est-ce que vous vous sentez un peu isolé? Ou est-ce que... toi, tu as d'autres formations aussi, mais peut-être dans la mouvance, on va dire rock, punk, est-ce que il y a des vraies connexions, des entraides, ce genre de choses?
Parfois, alors c'est... Justement, il y a 15 ans, je n'ai pas resté.
Votre vie.
Désolé, j'ai pas un mec aux cheveux.
C'est un peu loin, mais il y en a eu, ouais, il y en a eu un petit peu, mais après, comme ça, ça a un peu pris, entre guillemets. Il y a eu des petites dissensions, des trucs, et puis comme il n'y a pas beaucoup de ça, pas beaucoup d'opportunités, il y a de suite une compétition quand même, et c'est... Donc, mais il y en a eu à un moment donné, à mon époque, où... Enfin, c'était 2006, où il y a eu quand même ce retour du rock, comme je disais, ouais, c'est tout ça. Et c'était un peu en vogue, même ici, même en Corse. Donc il y a eu pas mal de groupes qui se sont formés. Et au début, il y avait quand même une connexion. Pas comme à l'époque de Spido, ou là, c'était vraiment... C'était patrie, quoi. C'était eux contre l'establishment ou les nations. Ouais, il y a eu un petit peu ça. Ou, je sais pas, mais...
Nous,
on est un peu seuls.
Ouais, nous, alors bon, on a des potes quand même, mais après, dans ce qu'on est, on a des amis.
Tu peux parler, c'est un espace.
En termes de ce qu'on fait, nous, ça va, je prends pas trop de risques en disant qu'on est à peu près les seuls de notre âge en plus. Donc, on se sent un peu seuls. Mais c'est pas grave, c'est cool. Après, on a quand même, y a quand même beaucoup de groupes qu'on apprécie beaucoup, avec qui on traîne beaucoup, mais sinon, dans notre style, c'est plutôt unique. Ouais. En toute humilité, c'est pas pour dire.
Est-ce que ça va jusqu'à partager des infos du type, tiens, on va vous recommander pour tel bar ou telle scène ou ce genre de choses?
Oui, ça va.
Non, ça je le dis pas, moi, je garde tout pour moi. Voilà. Non, bah après, le truc, c'est que, comme a dit Théo, c'est que même si on avait des informations, je saurais pas trop à qui conseiller d'y aller, quoi, là. Donc, je l'aurais fait avec plaisir, mais le truc, c'est que on n'est pas en contact avec les autres groupes, on se connaît. On a été contacté par le groupe pour chanter avec L'Oscourt et Vanguardia. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de solidarité, parce que justement, ils nous ont contactés. Ils font eux aussi, c'est du rock, hein, ce qu'ils font. Hein.
Ouais, c'est encore. Du métal. Après, ouais, voilà, nous, on était un peu dans notre grotte pendant longtemps. Donc, du coup, là, on se dit, mais il y a d'autres gens.
C'est pas notre génération.
Non, c'est pas notre génération. Ils sont plus âgés. Je pense que c'est.
Aussi la question de comment vous vous êtes rencontrés, je crois pas que vous y répondiez à cette question-là. C'était via l'école à Nice, vous êtes au conservatoire, c'est ça?
Alors nous trois, on est au conservatoire à Nice, et nous deux, on se connaît depuis le collège, la 6e. Et c'est plus ou moins la musique qui nous a liés d'amitié, parce qu'il commençait la guitare, je voulais reprendre, et du coup ça a matché, donc on a continué. En fait, on a commencé un peu nos chemins de guitariste ensemble, et du coup, bon, moi j'étais du coup plutôt dans la guitare classique, acoustique, dans la variété et les chansons corse, et toi, toujours chansons corse, mais guitare électrique, rock, voilà. Donc on avait deux répertoires différents, et puis on a continué comme ça, au collège, lycée, et puis maintenant, ça fait 2 ans pour Pansette qu'on s'est dit, on va faire des compos et on va faire de la musique ensemble. Mais, juste avant, jusqu'à maintenant, c'était plutôt quelque chose qu'on faisait quand on se voyait pour, je sais pas, l'apéro, on se buvait un coup, on se chantait une chanson, voilà, et là, ça fait vraiment 2 ans que c'est devenu très concret et professionnel, quoi.
Et c'est quand même pas banal comment dire, que vous soyez au conservatoire, donc que vous soyez dans un cursus, effectivement, musical, et que, d'un autre côté, vous ayez choisi de faire ensemble une musique rock, qui, traditionnellement, bon, est antiscolaire, on va dire, et antiscolaire aussi dans la musique, je dirais, et aussi musique traditionnelle. Alors, vous, comment vous le vivez? C'est là ce que je suis en train de dire pour vous, est-ce que ça fait pas du tout sens? Ou alors, au contraire, vous vous jouez de ça, vous en avez conscience et vous jouez de ça. Voilà, comment vous composez avec ce qui peut apparaître comme étant des oppositions, des antinomies, qui n'en sont peut-être pas.
Alors, déjà au conservatoire, c'est très très récent, ça fait 2 ans. C'est ça, oui, ça fait 2 ans qu'on est trois, qu'on est au conservatoire de Nice. Après, on est en musique actuelle, du coup, on fait du rock même à l'école, donc ça va. Très très bonne, enfin voilà, moi le conservatoire de Nice, très très bonne expérience. Pourtant, je suis pas école, mais vraiment, c'est top. Moi, ça m'a fait progresser énormément. Et honnêtement, je pense que ça se contredit pas tant que ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être, besoin de pas aller à l'école du tout pour faire du rock. Mais non, après, ça nous. On trouve pas ça particulièrement contradictoire. Enfin, même au contraire, d'ailleurs. Je trouve que le conservatoire de Nice, après je sais pas comment ça se passe ailleurs, notamment notre prof Fred Lusignan, et, enfin tous les autres profs, ils sont très très encourageants et ouverts sur la façon de jouer de chacun et sur le. C'est pas un cadre vraiment. Après je suis jamais allé en classique au conservatoire, j'en sais rien. Eux oui, ils sont toujours d'ailleurs un peu. Mais c'est très. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus cadré qu'en musique actuelle et si tu dois vraiment te mettre dans des carcans. En tout cas, en musique actuelle, tu peux te mettre dans des carcans, hein, comme partout. Mais sinon, ça reste assez libre et ils sont quand même assez compréhensifs sur ta façon de jouer et ce que tu as envie d'apporter. Ils t'encouragent dans tes projets et tout.
Merci pour être là. Moi, j'ai une question à poser, mais à l'ensemble et même aux plus anciens là-bas. C'est que, bon, au fil des témoignages, des entretiens qu'on a fait sur ces 2 journées d'études à Corté et ici à Dax, on voit pas beaucoup de filles. Et en fait, sur cette scène punk, rock, même électro, elle est où la place des filles finalement? Elles sont pas sur scène, elles font d'autres choses, elles participent ou pas? Quel rôle elles ont, voilà, enfin, quelques. Ouais, ouais. C'est un élément, c'est une question un petit peu vraiment, enfin, d'actualité.
Moi, je trouve que c'est une question
intéressante. Mais en même temps, c'est assez frappant et je pose la question parce que ça fait 10 ans qu'on est sur ce projet et que souvent les gens nous disent, ouais, c'est super le club aujourd'hui, c'est égalitaire, il y a des filles. En fait, on les voile jamais, très rarement. Ouais, quand elles sont là, elles prennent très rarement la parole. Voilà. Et je voulais savoir si. Le cadre de la Corse en particulier. Comment la question se posait
D'abord le grand ancien.
Non, mais c'est là. D'abord l'ancien, après le jeune. Bon, la Corse, c'est une société mitterranéenne où il y a l'illusion du patriarcat parce que la patronne de la famille, c'est la mère. Simplement, dans la société. Non, mais parce que c'est ça. C'est l'homme. Non, mais parce que si tu veux, il y a eu des femmes dans le mouvement punk, il y a Barbara.
Non. Mon premier groupe, c'était une chanteuse.
Non, il y a des musiciennes aussi, mais pas dans le rock, si tu veux, ou pas plus que les hommes. Mais il y a beaucoup de musiciennes encore. Il y a beaucoup de musiciennes.
Je parlais du punk, Serge, je pose la question-là, je l'ai déjà posée sur d'autres scènes. Hein.
Après, le problème chez nous, c'est les femmes en cuisine et les hommes au salon, enfin, on est toujours autour de ce truc-là.
Au chant, nos 3 premières chanteuses, c'était 3 chanteuses en fait. Les premières.
Voilà, c'était,
ouais. Ouais, parce qu'il y avait justement ce truc-là aussi, les jeunes chantaient pas en anglais ou faisaient pas du rock, c'était plus dans le traditionnel, ça, et c'était plus réservé aux filles quand on avait 15, 16 ans de chanter. Hein. Donc les 3 premières au chant, c'était des chanteuses. Ouais. Après, c'est sûr qu'elles sont pas tellement représentées, et même dans le traditionnel aussi, c'est pas non plus un truc, ça se répand un peu plus. Mais c'est pas encore un truc où les femmes chantaient tellement, même si c'est une société matriarcale.
Non, mais c'est. Je pense que oui, en effet, c'est tout à fait représentatif de la société corse. C'est-à-dire que c'est une société quand même qui est très patriarcale, évidemment. Donc voilà, il n'y a pas le symbolisme du matriarcat, certes, la femme qui porte le pantalon et l'homme au bar, peut-être.
Mais bon, dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Mais nous aussi, on va au bar. Mais bon, ceci étant, dans la musique, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu quand même. Il y a eu, quand Serge parlait de Barbara, oui, Barbara était chanteuse dans le groupe de Speedo. Il y a eu beaucoup de musiciennes qui ont fait du rock, qui ont fait de la batterie, qui ont joué. Il y a la jeune Elisa Tramone qui fait du pop folk et qui chante aussi en langue corse. Il y a évidemment dans le trad, il y a eu les trois Patricia, Patricia Paul, Patricia Gadadje, je veux dire, voilà, il y a eu quand même des femmes qui ont marqué une époque, mais ceci étant dit, ça reste très minoritaire.
Anecdotique, femme de petite, minoritaire.
Ça reste très très minoritaire.
Ma mère est une femme. c'est que en Corse, enfin ce que vous en.
Dans la nouvelle génération punk.
Ma question c'est vraiment plus largement sur le projet, c'est-à-dire que le punk, on sait que c'est quelque chose qui a permis aux gens en général de faire des choses, jouer même si vous n'avez pas très bien joué, faire un pas de côté, se débrouiller, etc. Et je voulais. Voilà, je pose la question de savoir si cette émancipation, elle est aussi faite pour les filles. Et c'est pas seulement pour la Corse, voilà, je pose la question.
Dans les nouveaux groupes internationaux, oui, c'est quasiment que féminin, avec Amy and the Sniffers, qui est le plus gros groupe punk. Il y en a un
groupe, j'ai pu en
dire. Voilà, c'est les artistes que j'écoute le plus dans le punk, c'est féminin. C'est plus.
Et après, moi, si vous voulez du grunge ou du punk, avec une voix féminine, j'ai un autre groupe qui s'appelle Midnight Midnight avec ma copine. Et pour le coup, ouais, elle est au chant et à la basse.
C'est ma copine qui chante
et qui joue de la basse. Et c'est mortel et elle est trop forte.
C'est malin.
Bon, on va. Merci vraiment pour tous ces témoignages, toutes ces réponses, pour votre présence, pour ces échanges. Ça a été une journée vraiment très très riche. Bon, on va clore cette journée. Bon, petit verre de l'amitié. Voilà, le projet Punk is Not Dead continue, évidemment. On est super heureux d'être venu en Corse, d'avoir travaillé avec vous. Et on espère d'ailleurs revenir.
Oui, c'est ça. On va essayer d'aller à Bastia l'année prochaine.
Ouais.
Et donc, je redis ce que j'ai dit hier. Les deux journées de Cortés d'Ajaccio seront captées, seront restituées sur le site internet du projet. Il y a la chaîne YouTube, j'avais des vidéos en retard, mais les vidéos de photos, elles vont aussi être toutes mises en ligne. On est en train de refondre un peu le site. Et voilà, donc ce soir, concert à 21h. Et là, on a acheté du vin corse.
Et on remercie vraiment l'étrange atelier.
Merci beaucoup d'être tous venus parler. Merci.
Vraiment, superbe lieu, franchement. C'est la place totale. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup.
Merci.